France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Conservateur en chef du musée d'art moderne de la ville de Paris à sa création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jean Cassou fut une personnalité importante et originale du monde littéraire et artistique français. Né près de Bilbao en 1897, d'une mère andalouse et d'un père français, il fut poète, romancier, essayiste, critique d'art. Membre du cabinet de Jean Zay pendant le Front populaire, il passa plusieurs mois en Espagne, au moment de la guerre civile, pour soutenir les républicains, fut ensuite résistant pendant l'occupation, arrêté et enfermé à la prison de Toulouse, puis l'un des préfets clandestins de la France occupée après sa libération. En 1985, il accordait à Jacques Binns une série de 5 entretiens sur France Culture. Dans le deuxième volet, il poursuivait sa description du foisonnement artistique et intellectuel qui caractérisa la période de l'entre-deux-guerres et sa vision de ce qui constituait à son sens le génie créateur, par exemple celui de Marcel Proust ou de Paul Valéry. Première diffusion sur France Culture, le 3 novembre 1985.
La vocation d'écrire, entretien avec Jean Cassou, par Jacques Binns, réalisation Odile de Pontual, collaboration technique Agnès Boissonnade et Jean Daniel.
Sur le plan philosophique, sur le plan social, sur le plan des idées, cette époque a été étonnante et elle a été créatrice. La puissance, l'énergie créatrice de l'homme, à ce moment-là, eh bien, a été sollicitée d'une façon très forte, très insidieuse, très exigeante. Et très passionnée et très surprenante.
Il y a un phénomène assez curieux quand même, c'est que il y a plusieurs modes simultanées. La mode se présente un peu, si on voulait dire la mode avec un grand M, comme un phénomène astrate, parce que exactement à la même époque, au moment dont vous parlez, où le génie de Proust et le génie de Valéry se manifestaient et étaient plus ou moins reconnus, enfin plutôt reconnus. Il y avait en même temps d'autres talents, génie ou talent, je crois plutôt que ce sont des talents, qui étaient reconnus en même temps. C'était celui de Romain Rolland, celui de Roger Martin Dugard, Jules Romain qui aussi commençait à écrire Les Hommes de bonne volonté avec beaucoup de succès.
C'est-à-dire l'époque a été d'une énorme diversité, d'une très très grande diversité, mais dedans apparaît toujours un élément très vif, très aigu, et qui est un élément de subversion. La création est antisociale. Elle se heurte à une espèce de consensus que l'on peut qualifier de bourgeois, avec tous les sens que l'on peut mettre dans cet adjectif. Mais quelque chose a disparu. C'était le consensus bourgeois de la fin du 19e siècle et du commencement du 20e. Ça a été l'esprit 1900 et ça a été l'esprit de la révolution industrielle. Où, en effet, la bourgeoisie a eu à ce moment-là un très très grand moment en France. Après la catastrophe de 70, la France s'est relevée avec une puissance, une énergie extraordinaire et une grande joie. Et dans un style fin de siècle, en même temps un style pompier, un style officiel, un style essentiellement bourgeois. Et l'on peut définir d'une façon assez précise, n'est-ce pas, si on en a le temps, ce que signifie ce mot. Et alors, en opposition à cette énorme satisfaction qui éclatait dans le succès des expositions universelles, n'est-ce pas, et qui ont marqué le réveil de la France bourgeoise. En même temps, ce succès de la France sortant de la défaite de 70 et de la perte de l'Alsace-Lorraine, le succès de la France sur le terrain colonial a mis la France dans une position internationale extrêmement importante et en a fait une très grande puissance et qui a pu rivaliser sur son propre terrain, sur le terrain de l'Angleterre et de l'Empire britannique lui-même, avec l'Angleterre et avec le colonialisme anglais. Eh bien, tout ceci a donné à la bourgeoisie française, à la grande bourgeoisie industrielle, commerciale, à la grande bourgeoisie d'affaires de la France de cette époque-là, une puissance énorme et qui s'est traduite par une espèce de grande satisfaction qui, en art, a pris l'aspect de l'art pompier, de l'art académique, alors que les révolutions qui avaient commencé avec l'impressionnisme et qui s'étaient poursuivies sur le terrain littéraire avec le symbolisme, et ceci est extrêmement important, puisque le dernier résultat de cette grande révolution symboliste, eh bien, c'est ce chef-d'œuvre de succès, de gloire et de puissance qui s'appelle Valéry. Eh bien, tout cet art-là se manifestait sous l'aspect de ce qu'on a appelé l'art maudit, celui dont ne voulait pas la bourgeoisie officielle. L'art maudit qui, à ce moment-là, a succédé à l'impressionnisme et au symbolisme, avec en tête des hommes de génie et des hommes dont la carrière a eu un aspect très pathétique, très dramatique, très singulier. Je pense particulièrement à Verlaine, à Gauguin, à Van Gogh, à Cézanne, et qui, eux, dans la misère, dans la difficulté, dans l'opposition, dans le secret et dans le refus, ont accompli une œuvre prodigieuse et ont bouleversé complètement nos façons de sentir, les façons de sentir de l'homme et ses façons de se comporter en matière d'esprit et de création spirituelle. Et alors, cette opposition a été quelque chose d'extraordinairement riche, parce qu'alors, cette opposition a commencé à se manifester dans les premières années du XXe siècle et dans des lieux très particuliers, très singuliers et d'un prestige, pour ainsi dire, secret et subversif, comme Montmartre, le bateau de Lavoir, et Montparnasse, la Rotonde et Vaugirard. Et alors tout ceci a abouti alors à la grande transformation, à l'éclatement de l'après-guerre de 14 et de la période 1920. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison de me dire que la période de l'entre-deux-guerres a connu des moments différents. En effet, le premier moment, c'est le moment de l'explosion, c'est-à-dire, en effet, tout de suite, après le traité de Versailles, une espèce d'explosion et qui est marquée par les années 20.
Comment est-ce que vous vous êtes inséré dans tout ce milieu?
Ah bah tout naturellement.
Naturellement, mais je veux dire, il faut que vous nous fassiez le passage entre les grandes difficultés personnelles où vous nous avez laissé tout à l'heure et puis ce moment-là.
Tout d'un coup, il n'y a pas de passage entre des difficultés et puis du nouveau. Il y a eu en effet insertion de quelqu'un qui a ses difficultés, qui les a eues d'une façon très, très forte et désespérée, allant jusqu'à l'angoisse et jusqu'au désespoir. Et, mon Dieu, avec certains accommodements qui se font grâce aussi à la bonne volonté de l'époque, qui, à ce moment-là, offre un tas de possibilités à un jeune écrivain d'avant-garde. Et au contraire, lui apporte du succès, lui apporte des éditeurs, lui apporte des collections de bibliophilie. J'ai fait, par exemple, une critique poétique dans un journal qui a été créé à ce moment-là, qui était les Nouvelles Littéraires, qui a eu un succès formidable et qui avait un nombre énorme de lecteurs. Parce que le public, aussi bien le public intellectuel que le public bourgeois et que le public mondain, de façon diverse et pour des raisons diverses, s'est passionné pour toutes les nouveautés auxquelles il assistait et auxquelles il participait lui-même. Et alors, tout ce qui se passait à ce moment-là, les grands événements intellectuels et artistiques du moment, les ballets russes, les expositions de peinture, les galeries d'art, et le succès financier de l'art moderne, le snobisme, tout ceci faisait un climat extraordinairement heureux et enthousiaste.
Oui, d'accord, mais c'est une idée reçue aujourd'hui, et très très fortement reçue, que quand on connaît la misère ou la pauvreté, il est absolument impossible de s'introduire dans l'activité artistique.
Cette activité artistique, je la faisais. Je participais à la transformation. J'étais un de ceux par qui et pour qui elle se faisait. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'être dans un...
On pouvait être pauvre et aller au ballet russe, par exemple.
Ah ben oui, bien sûr. Ah ben, mais naturellement. Mais naturellement. Les différences de secteurs sociaux, les différences entre, comme je vous l'ai dit, la rive droite et la rive gauche, entre mondanité et bohème, n'existaient plus. Pensez que Modigliani, qui est mort dans la misère et dans la folie, et dans l'alcoolisme, etc., qui est tout à fait représentatif de la tragédie de Montparnasse, et de la misère de Montparnasse, est devenu du jour au lendemain un peintre dont les œuvres ont été recherchées avec passion, et dont le moindre dessin, n'est-ce pas, a été coté tout de suite à des chiffres prodigieux, n'est-ce pas, auxquels on ne s'attendait pas. Picasso, qui a vécu les années tragiques à la fois bouffonnes, comiques et tragiques, du bateau Lavoir, est devenu du jour au lendemain l'homme le plus célèbre du monde entier. Et que ces inventions géniales, les inventions de son génie, elles ont été admises. En même temps, elles ont été reçues avec un éclat formidable. Alors, toutes ces contradictions font de cette époque une époque prodigieusement originale et singulière, pleine de contradictions, mais ce sont ces contradictions mêmes, n'est-ce pas, qui font l'originalité de tout cela. Qu'est-ce que le snobisme? Eh bien, le snobisme apparaît à ce moment-là comme une vertu, un moyen extraordinaire, un moyen prodigieux de mettre l'art à sa place, de le valoriser, de lui donner une signification morale, sociale, métaphysique, et en même temps un scandale, mais un scandale qui est reçu par certains milieux, et cet accueil lui-même est scandaleux à son tour. Pensez que c'est l'époque de Proust et de Valéry. Alors là, il y a de quoi réfléchir aussi au bienfait du snobisme, tu vois, parce qu'en effet, deux phénomènes comme Proust et Valéry, chacun à sa façon, nous obligent à réfléchir beaucoup sur ce qu'est la mode en matière littéraire, ce qu'est la mode en matière de roman et en matière de poésie, mais aussi en même temps ce qu'est la création géniale, parce qu'il s'agit de l'un des plus grands romanciers qui ait jamais été dans toutes les littératures du monde entier et à toutes les époques, et de l'un des plus grands poètes de la langue française et de l'un des plus grands penseurs de la pensée française. Et alors, on est amené à réfléchir sur la condition dans laquelle ces deux hommes singuliers ont mené chacun sa carrière, sur les caractères spécifiques de cette carrière et sur la relation spécifique, extrêmement bizarre et extrêmement riche, qui s'est établie entre cette carrière et les événements de la mode et les rapports du grand public avec les créations de l'esprit et avec les créations les plus audacieuses et les plus originales de l'esprit.
Qu'est-ce que vous trouvez, je pose une question sérieuse, hein,
je ne pouvais pas en poser d'autres.
Que trouvez-vous de subversif à Proust?
Pour moi, Proust, c'est Bach, c'est l'accomplissement d'un
art classique complet.
Mais tout artiste est Bach et tout artiste est Rimbaud.
Oui, mais en même temps, il y a Joyce à la même époque, Joyce écrit Ulysse.
Oui.
Alors.
Oui, mais Proust écrit son œuvre, écrit son
père. Qu'est-ce qu'il y a de subversif? Ça m'intéresse fort parce que...
Mais ce qui est subversif, c'est l'opération du génie. Et la manifestation du génie. C'est-à-dire la manifestation de la singularité. De la singularité, la création, le pouvoir créateur et l'œuvre créatrice, c'est-à-dire le succès créateur, l'opus... L'accomplissement de quelque chose, l'accomplissement d'une pensée créatrice et d'une pensée géniale, c'est déjà en soi quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose déjà de génial et par conséquent de subversif, parce que ça rompt avec toutes sortes d'habitudes mentales, de compromis et de mécanismes et d'abstractions qui étouffe la création, qui étouffe la pensée, qui étouffe l'art et qui paraissent devoir maintenir toute pensée dans un passé obscurci et obscurcissant. Il en est de même de toutes sortes d'apparitions à ce moment-là, du génie dans toutes sortes de domaines, dans celui de la philosophie. Ne serait-ce que l'apparition d'un penseur de la dimension de Bergson, et qui a eu une action formidable sur toute l'époque, dans tous les pays.
Alors que ça peut paraître aussi l'expression d'une pensée bourgeoise.
Tout peut paraître l'expression d'une pensée bourgeoise, tout. Mais en même temps, tout est subversion si tout existe et se manifeste, et devient manifeste. Et prend une signification de nouveauté, et pour employer un terme auquel Baudelaire a donné une signification prodigieuse, de moderne, de modernité. Il y a l'esprit moderne, qui est une création du génie baudelairien, l'esprit moderne qui est commun à tous ces événements et à tous ces accomplissements. Ils sont tous modernes. Et c'est-à-dire, ils sont la révélation et la manifestation d'une façon nouvelle de concevoir toutes les choses de la vie. Et alors, la subversion, où est-elle? Mais elle est là-dedans. Elle est dans la nouveauté de tout cela. Elle est dans ce qu'on appelle l'esprit moderne, ce que Baudelaire a appelé l'esprit moderne, c'est-à-dire un accord avec le siècle, mais un accord inventeur et inventif et créateur.
C'était Jean Cassou ou la vocation d'écrire, deuxième volet d'une série de 5 entretiens menés par Jacques Binns, diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 novembre 1985. À suivre.